La radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Il est 6h avant minuit, vous écoutez l'émission d'info locale de Syllab. Nous sommes le mercredi 8 octobre 2025 et comme le dit l'adage, en octobre, si tu es prudent, achète grains et vêtements. Oui, je n'étais pas du tout inspirée pour mon édito aujourd'hui, mais ça vous donnera du grain à moudre. Tout de suite, le flash d'Estelle.
Un mot circule, optimisme. Aujourd'hui marque le troisième jour de négociations indirectes entre Israël et le Hamas sous médiation égyptienne. Selon Taher al-Nounou, l'un des dirigeants du mouvement palestinien, les échanges avancent dans un esprit d'optimisme. Premier signe concret, des listes de prisonniers palestiniens ont été communiquées en vue d'un éventuel accord d'échange avec les otages israéliens retenus dans la bande de Gaza. Parmi les noms évoqués, celui de Marwan Barghouti, considéré comme le Nelson Mandela palestinien détenu par Israël depuis 2022. Ces déclarations s'inscrivent dans un contexte de pression internationale. Des hauts responsables américains, qataris et turcs ont rejoint les pourparlers en Égypte. Une nouvelle ligne Maginot, mais version technologique. Aujourd'hui, à Strasbourg, Ursula von der Leyen a sonné l'alarme devant le Parlement européen concernant les incursions de drones russes en Europe. La présidente de la Commission appelle à une Europe forte face à la guerre hybride russe. Elle propose un mur anti-drone pour sécuriser le ciel européen. Quelque chose de nouveau et de dangereux se joue dans notre ciel, a-t-elle averti. Elle évoque des drones survolant plusieurs pays européens, mais aussi des câbles sous-marins sabotés et des campagnes de manipulation pendant les élections. Pour elle, ces actes répétés relèvent d'une stratégie coordonnée menée dans cette zone grise entre guerre et paix. Et la présidente conclut : nous ne devons pas seulement réagir, mais dissuader, car si nous hésitons, la zone grise ne fera que s'étendre. Mission impossible à Matignon, Emmanuel Macron propose un dernier défi à Sébastien Lecornu : trouver un point d'accord sur le budget en 48 heures. Aujourd'hui, la journée a été chargée pour la politique française. L'AFKN revient sur les actualités du gouvernement.
Le 8 septembre, François Bayrou et son gouvernement ont chuté après un vote de confiance raté à l'Assemblée nationale. Le 9 septembre, Emmanuel Macron a nommé son cinquième Premier ministre depuis 2022, Sébastien Lecornu. Le président a choisi l'un de ses plus fidèles pour, je cite, « consulter les forces politiques représentées au Parlement en vue d'adopter un budget pour la nation et bâtir les accords indispensables ». Dimanche 5 octobre, Lecornu nomme son nouveau gouvernement. À 70% identique au précédent, on y retrouve aussi Bruno Le Maire, celui qu'on surnomme l'homme aux 1000 milliards de dettes. Les critiques sont alors instantanées, elles viennent de tous les bords et même du gouvernement tout juste nommé. Le lendemain, Lecornu annonce sa démission, jugeant qu'il est impossible de trouver un gouvernement qui fasse consensus. Celui-ci aura duré 14 heures du jamais vu dans la 5ème République. Mais le soir même, Emmanuel Macron offre un dernier défi au démissionnaire Lecornu, 48 heures pour mener d'ultimes négociations et stabiliser le pays. Voilà où nous en sommes et la question de la politique en France est dans toutes les bouches. Où en est la démocratie dans le pays des droits de l'homme ? L'ancien bras droit d'Emmanuel Macron, Gabriel Attal, a vivement critiqué le président. Pour lui, Macron n'est plus logique et s'acharne à garder la main sur le pouvoir. Comme beaucoup d'autres personnalités politiques, Attal défend le changement. Tout n'a pas été essayé, le président a essayé trois fois la même chose depuis un an, je pense qu'on peut essayer autre chose. Bruno Retailleau, qui avait été reconduit au gouvernement, a lui aussi critiqué un gouvernement sans aucune nouveauté. Cependant, si tout le monde politique s'accorde sur un besoin de changement au gouvernement, les partis ne sont pas d'accord sur les directions. Pour la droite, la réforme des retraites ne doit pas être suspendue, c'est une ligne rouge pour LR et Horizon. Marine Le Pen, elle, annonce qu'elle censurera tout jusqu'à un retour aux urnes. Pour elle, on ne peut pas gouverner avec moins de 5% au présidentiel. À gauche, on défend une suspension de la réforme des retraites. Après un entretien à Matignon, Olivier Faure regrette un manque de clarté de la part de Lecornu sur le sujet. Le PS et les écologistes sentent cependant un vent favorable vers un ou une première ministre de gauche, combat qui, elle, mène depuis 2024. Une cohabitation qui pourrait être difficile pour deux raisons. La droite annonce d'ores et déjà qu'elle ne donnerait pas une voix à la gauche qui serait censurée. et la France Insoumise s'oppose à ce qu'elle appelle un sauvetage de la Macronie. Les représentants LFI Manuel Bompard et Mathilde Panot se sont exprimés. On ne peut pas tout accepter pour espérer devenir Premier ministre. Nous ne participerons jamais au sauvetage de la Macronie. Malgré les annonces de Marine Le Pen, seule la gauche a voté une motion de destitution contre le président de la République. Cette motion, déposée par la France Insoumise, a été jugée irrecevable. Alors vers quoi allons-nous? Quelle perspective pour des Françaises et Français qui voient flou et pour des jeunes qui ne comprennent plus la politique? À l'heure actuelle, il est difficile de tirer de quelconque conclusion. Aujourd'hui, Matignon reçoit, débat et tente le tout pour le tout. Dans les rues, les citoyennes et citoyens manifestent toujours leur mécontentement et le peuple réclame le pouvoir. Alors que 68 millions de personnes attendent une réponse, Emmanuel Macron refuse d'affronter le vote des Françaises et Français. Ce matin, Sébastien Lecornu se disait confiant sur une possible convergence vers un budget avant le 31 décembre. Ce soir, alors que des alliances se créent ou s'effritent, toutes les cartes peuvent être rebattues.
Merci Lafken. Sébastien Lecornu se concertera avec Emmanuel Macron dans la soirée et prendra la parole aux 20h de France 2. Et il y en a une autre qui a pris la parole et elle a fait beaucoup de bruit. Hier, dans une interview au Parisien, Elisabeth Borne s'est dite ouverte à une suspension de sa très impopulaire réforme des retraites. Une façon, selon elle, d'éviter une dissolution de l'Assemblée nationale. Une déclaration inattendue de l'ex-première ministre, aujourd'hui démissionnaire de l'éducation nationale et jusque-là fidèle défenseuse du report de l'âge légal à 64 ans. À gauche et chez les syndicats, l'idée d'une suspension est bien accueillie. Mais elle ne convainc pas le camp présidentiel où plusieurs figures redoutent le coût d'un tel recul. Roland Lescure, lui aussi ministre démissionnaire de l'économie, prévient « Modifier la réforme coûtera des centaines de millions en 2026 et des milliards en 2027. » Une sortie non concertée, ni avec l'Élysée, ni avec Matignon. Un copier-coller, une erreur, c'est la réponse donnée hier soir par le major Gilles Loys, gendarme en charge de la téléphonie dans l'affaire Jubilard, à une question cruciale. Le téléphone de l'amant de Delphine Jubilard a-t-il, oui ou non, été capté par une antenne près du domicile du couple, à Cagnac-les-Mines, la nuit de sa disparition? La veille, les avocats de Cédric Jubilard, maître Franck et maître Martin, avaient révélé que le numéro de l'amant figurait parmi 551 téléphones ayant borné près de la maison. Mais un détail embarrassant, puisque les enquêteurs avaient jusque-là affirmé que cet homme était resté chez lui à Montauban. Alors, simple bug ou mauvaise manipulation? C'est une erreur de ma part, répète le gendarme, expliquant que ce numéro aurait été ajouté par inadvertance, car il figurait sur la facture de Delphine Jubilard. Une journée grisonnante pour le procès de Cédric Jubilard, accusé du meurtre de sa femme, Delphine, disparue en 2020. C'est le début d'un chantier très attendu, la démolition du parking Vilaine démarre ce lundi 13 octobre. Fermée depuis fin août, la dalle du parking Vilaine va être déconstruite en plusieurs étapes, sur une durée d'environ 7 mois. Un démarrage passe en conséquence. Le quai Dubouet-Trouin sera fermé à la circulation entre la rue Le Bouteiller et la rue de la Monnaie, au moins jusqu'à fin novembre. Le trottoir, lui, reste accessible aux piétons et des déviations seront mises en place pour les automobilistes et les cyclistes. Dès mi-novembre, le chantier entre dans sa phase spectaculaire. Les blocs de béton seront découpés puis évacués par barge sur la Vilaine. En décembre, place au grutage et à l'installation des engins lourds. Cette étape devrait se poursuivre jusqu'en avril 2026. Jeudi 18 septembre, c'était Las Fiestas Patrias au Chili. Au Resto Guinguette avec Parc des Bois, une petite soirée était organisée pour l'événement avec la venue d'un groupe franco-chilien, le trio Owas. Pour l'Afghan, c'était l'occasion d'aller comprendre ce que c'est de fêter sa culture loin de chez soi.
Moi, c'est Baptiste Viraud. Je suis co-gérant de la guinguette du Parc des Bois à Rennes, dans le Parc des Gailleuls. L'année dernière, on avait un chef de cuisine qui avait vécu au Chili et il voyait bien qu'on faisait des événements un peu en tout genre, donc il a proposé qu'on accueille la fête nationale chilienne. En fait, d'offrir un endroit de rencontre pour tous les gens qui sont de cette communauté chilienne, qui sont expatriés en France. Et moi, c'est quelque chose que j'avais vécu quand j'ai vécu quelques mois au Mexique avec d'autres Français en buvant du pastis au Mexique, enfin voilà, des petites spécialités de chez nous, c'était c'est cool, c'est agréable, donc j'étais content de pouvoir offrir ça aussi à des gens, quoi.
Culture chilienne, je la connais assez peu, mais justement je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir venir partager un pan de la culture du Chili. Il y a des gens très ouverts autour de nous. Il y a des gens qui ont envie de partager.
Ouais.
Je me sens heureuse d'être ici, de pouvoir partager la langue de mon peuple. Nous devons être heureux, car c'est un jour de plus pour se réunir. Je ressens de la gratitude pour cet espace, pour la bonne musique, la bonne nourriture, la bonne bière, mais les empanadas. En tant que chilienne, c'est la plus grande fête de mon pays. Il est donc très important pour moi de venir à ces petits événements, car ça me rappelle ma maison, ma famille, pas seulement le Chili, mais toute la situation familiale. Manger une empanada, boire un pisco sour, ça représente quelque chose. C'est créer une communauté. Ici, je ne connaissais pas grand monde, et maintenant j'ai rencontré des Boliviens, d'autres Chiliens, des Mexicains, et même des Français. C'est comme créer une communauté en partageant les différentes cultures et ce qui peut les unir.
On voulait remercier à Baptiste et toute l'équipe de la Guinguette du Parc au Parc du Bois. Allez, merci beaucoup.
Merci Lafken, et on vous invite bien sûr à foncer vous renseigner sur le site du Parc des Bois et sur les réseaux du Trio OAS. Avez-vous déjà mis les pieds dans cette friche industrielle à la Courrouze ?
Pas du tout.
Eh bien, vous avez loupé la visite de la journée.
Ah !
En effet, aujourd'hui, de 12h30 à 13h30, il était possible de visiter les Halles en commun avec le service culturel des universités de Rennes. Cette visite a donné l'occasion aux plus curieux de parcourir l'histoire et l'identité de ce lieu. Ce programme, élaboré par les services culturels des universités de Rennes et de l'université Rennes 2, vous emmène dans des visites gratuites et commentées d'expositions sur le campus et la ville de Rennes. Et si vous ne voulez pas louper la prochaine visite et découvrir l'hôtel Pasteur, rendez-vous le 5 novembre de 17h30 à 18h30. Les places sont limitées, donc inscrivez-vous sur le site culture.service.univ.rennes2.fr/action-culture/visite-de-lieux-culturels.
On aura compris, merci du conseil Estelle, et à mercredi pour un nouveau flash.
À mercredi.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Interview complètement zinzine avec Roman aujourd'hui.
Ils sont venus à deux. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Léo Bray et son outfit tout en noir et Thaïs Guimard qui porte deux clés de sol aux oreilles. Vous êtes tous les deux auteurs et autrices de BD, illustrateurs et illustratrices, mais aussi membres de la maison de micro-édition Next Revel et de l'association Zinzinerie. Plus que quelques jours d'attente avant le top départ, ce week-end c'est la Zinzinerie qui revient pour une toute nouvelle édition. Donc, quelle est l'atmosphère qui règne à quelques jours de l'ouverture des portes?
Ben là, on rentre dans une petite période un peu speed où tout s'accumule et où le téléphone vibre pas mal sur les différents réseaux, Discord, WhatsApp, etc. Surtout que, comme tu l'as dit, on s'occupe de Festival Zinzinerie avec Thaïs, mais on s'occupe aussi un peu d'une maison d'édition qui sera là et qui a aussi ses propres sorties, ses propres trucs à faire. Donc ça se cumule.
Et on peut peut-être revenir sur le concept du festival, qui est de mettre à l'honneur le fanzine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
Le fanzine, c'est... à Zinzinerie, on part du principe que c'est un peu... c'est tout objet. Ça peut être une feuille pliée en deux, quelque chose qui fait office de livre et que tu peux partager et que tu imprimes toi-même. Et donc, c'est ça qu'on met en avant. C'est une définition très large.
Et c'est un festival qui célèbre le fanzine, mais pas uniquement. Ça célèbre quoi d'autre ?
En fait, c'est... Nous, on vient du milieu du dessin, pour la plupart. Enfin, on est quatre à s'en occuper. Il y a également Hugo Le Fur et Victor Amonic. Et donc, du coup, c'est pas le cas de tout ce qui se retrouve à Zinzinerie, mais il y a une grande partie dans ces fanzines qui va être tournée vers la bande dessinée, vers l'illustration, vers le dessin. Et donc, du coup, je pense qu'on célèbre aussi ces formes artistiques. Et après, dans tout ce qui va se retrouver aussi dans les autres collectifs et tout, il va y avoir de la poésie, il va y avoir... de l'écriture, de la littérature. Et il y a aussi des textes plus, enfin des fanzines plus, plus militants, plus, plus qui abordent des sujets un petit peu politiques. Et voilà, donc on va célébrer un petit peu tout ça. Et ce qui relie le tout, c'est cette forme-là où, où on édite par, par nous-mêmes de manière soit très simple, comme disait Thaïs, soit des formes plus complexes avec des techniques d'impression diverses et variées.
Donc vous venez de nous le dire, vous êtes tous les deux dans le monde, enfin dans le milieu artistique, dans la création artistique. Quel est votre parcours ?
Avec Léo, on s'est tous les deux rencontrés aux Beaux-Arts à Angoulême. Et après, les autres, ils n'ont pas fait les Beaux-Arts d'Angoulême, mais je ne saurais pas dire leur... je saurais pas réciter leur parcours.
La plupart d'entre nous, on est passé quand même par des écoles d'art, je crois. Donc je crois que Victor, il est passé par les Beaux-Arts de Caen et de Lorient. Et Hugo, il est passé par les Beaux-Arts de Poitiers, peut-être une école sur Paris. Enfin, on vient de milieu étudiant de l'art.
Donc c'est vous tous qui avez eu l'idée de former ce festival. Comment elle est née, cette idée ?
Alors en fait, elle est née parce que en étant à l'école, on a créé des collectifs. Des sortes de petites maisons d'édition. Et on s'est mis un peu à fréquenter ce type de salon. Il y en avait un à Angoulême, la ville où on habitait. Il y en avait aussi à Montreuil, il y en avait aussi à Strasbourg, il y en avait dans pas mal de villes. Et après, comme on est venu s'installer à Rennes, et qu'il n'y avait pas un salon, un festival qui ressemblait un peu à ceux dans lesquels on était habitué d'aller, bah, ça nous a... donner envie d'avoir chez nous un équivalent et de pouvoir à notre tour inviter un peu tous les gens qu'on avait pu rencontrer, croiser dans ces différents milieux.
Et là, c'est la deuxième édition. Avant de nous plonger dans cette nouvelle programmation, est-ce que vous pouvez nous dresser un petit bilan de la première ?
ça s'était bien passé. Je sais pas.
Bah ouais, ça s'était très bien passé. Ça, il y avait eu un peu de monde surtout, et ça c'est ce qui nous faisait super plaisir, c'est que les collectifs qui étaient invités lors de la première édition nous ont tous dit que ça avait été super pour eux. Il y en avait qui venaient pas forcément de Rennes et qui découvraient aussi la ville et tout, donc tout le monde était hyper content, ce qui était motivant pour la deuxième édition.
Est-ce que vous avez une idée en termes de chiffres, combien il y a eu de visiteurs ou combien il y avait d'invités aussi ?
Non, c'est un problème qu'on a rencontré. On n'a pas trop d'idée du nombre de visiteurs, malheureusement.
Le nombre de visiteurs, je ne saurais pas trop dire. Mais par contre, au niveau du nombre d'invités, il y avait, je crois, une vingtaine de collectifs l'an dernier. Et cette année, ou 20 et quelques.
Peut-être un peu moins d'une trentaine.
Ouais. Voilà.
Et comment elle s'organise, cette organisation ? Enfin, comment s'articule cette organisation de cette nouvelle édition ? Comment vous choisissez vos artistes ?
L'année dernière, comme c'était la première édition, on a plutôt contacté nous-mêmes des gens qu'on connaissait, parce qu'on avait un peu peur de faire un bid. Du coup, c'était moins gênant de bider avec des amis. Et cette année, comme ça avait bien marché l'année précédente, on a fait un appel à candidature pour ouvrir à qui voulait. Et on a reçu énormément de demandes et du coup, on a dû faire une sélection.
Ouais, parce que aussi, une fois qu'on le fait une première fois, au cours de l'année, on se retrouve à avoir pas mal de gens qui nous demandent de l'extérieur, tandis que la première année, ça n'existait pas. Du coup, on a pu faire un peu notre petite tambouille un peu dans notre coin. Et là, on se disait que avec tous ces gens qui demandent, le mieux, c'est de les rediriger vers un moyen de pouvoir faire une demande officielle. Et après, nous, on fait une sélection et tout. Et, tout.
J'ai lu dans une de vos citations dans l'Ouest France, où vous dites « Nos invités sont peu représentés car non édités. Quand on est dessinateur ou illustrateur, le monde du fanzine permet de produire et d'exister. » Est-ce que vous pouvez commenter cette phrase, s'il vous plaît ?
C'est que le le monde de l'édition, c'est assez cruel. Enfin, tu peux pas forcément... Enfin, des fois, il y a des styles qui passent pas pour des logiques commerciales. Et du coup, le fanzine, il évite un peu ça. À partir du moment où tu le fais toi-même, tu peux diffuser toi-même ton travail. Donc, t'esquives un peu ces logiques-là.
Ouais, et ça permet, du coup, pour pas mal de gens qui commencent déjà, enfin, qui sont étudiants et tout, et qui n'ont pas encore mis un pied dans la grande distribution de l'édition, de faire des premiers livres, des premières histoires complètes, et d'avoir un premier public aussi. Et ça concerne pas seulement des gens qui commencent, mais ça concerne aussi des gens qui font ça depuis longtemps, ou même des gens qui éditent par ailleurs dans des plus grosses maisons d'édition, mais qui ont aussi des projets qui ne rentreraient pas dans les cases de maisons d'édition, qui sont soit trop courts, soit trop particuliers, et qui ont envie de garder justement des possibilités de faire des livres un petit peu plus micro-édités avec des amis et tout et tout.
Et là, on parle de maisons d'édition. Justement, comment se comporte le marché en France pour la bande dessinée ? Est-ce que vous avez une idée ? Est-ce que c'est quelque chose qui marche ?
Je ne sais pas si tu sais peut-être un peu plus.
Y en a pas mal qui se vendent à Noël, mais sinon, je ne saurais pas dire comment va le marché exactement. Après... Enfin, avec toute la crise du papier et tout, tout le monde de l'édition, on a quand même pris un sacré coup, quoi.
Est-ce que la France, c'est un bon pays pour faire de la BD ?
Ouais, par contre, on est quand même privilégié par rapport à pas mal d'autres pays encore.
Pourquoi ?
Je sais que en Espagne, c'est plus compliqué. On a quand même des... Déjà, il y a quand même beaucoup plus de lecteurs de bandes dessinées, donc il y a plus de personnes qui achètent les livres. Donc ça permet aux éditeurs de voir un peu plus large et de choisir des trucs un peu plus bizarres ou quoi. Donc on a une production un peu plus diverse, et après aussi ça permet de pouvoir donner de meilleures avances sur droit aux auteurs, même si elles ne sont pas très élevées. En France, on est quand même chanceux par rapport à d'autres pays européens.
Et sinon, par rapport, je crois, au marché du livre, de manière générale, mais aussi, c'est aussi vrai pour la bande dessinée, je crois que comparé à il y a pas mal d'années, on est quand même dans une période où il y a beaucoup de sorties. Genre, il y a une quantité de sorties qui est très grande. Et ce qui fait que il y a beaucoup de sorties, mais il y a peut-être un peu plus de lecteurs, mais pas non plus des infinités de lecteurs. Et donc, du coup... beaucoup de livres sortent et ça fait des multitudes de voilà dans les librairies de nouvelles sorties qui vont très vite et je pense que il y a très peu d'auteurs et d'autrices qui sortent leur épingle du jeu et qui en vivent décemment, et donc ce qui fait que tous les autres ils ont leur livre qui sort, ils ont des petites rentrées d'argent vis-à-vis de ça, mais c'est relativement très peu, et la plupart des auteurs et d'autrices ont besoin d'autres boulots ou de commandes en illustration ou de trucs à côté pour vivre.
Et en parlant du métier, est-ce que vous pensez que l'IA a un impact sur le travail des illustrateurs et des illustratrices ?
Oui, c'est certain, parce que maintenant, il y a pas mal de gens qui auraient pu faire appel à des illustrateurs et illustratrices qui vont générer des images et qui vont être satisfaits avec ça. Après, moi, j'ai l'impression que... Enfin, je parle vraiment pour moi, là. Mais j'ai l'impression que c'est des problèmes qu'on a toujours rencontrés, qu'il y a toujours des gens qui ont essayé de se passer de des gens qui dessinent ou de créateurs, et que ça va s'épuiser à un moment. Et... Enfin, je m'inquiète pas trop.
Oui, et puis, pour l'instant, en bande dessinée, vraiment, ça n'a pas encore atteint... je pense que les gens qui achètent des bandes dessinées sont plutôt des gens qui ont envie de... acheter des choses, enfin une œuvre originale dans un auteur qu'ils aiment bien par leur style, par le type d'histoire, etc. Donc pour l'instant, je pense pas que dans l'esprit des gens, acheter un livre fait par IA, ça leur donne trop envie. Mais par contre, effectivement, pour tout ce qui est petites illus à droite à gauche, pour des marques, pour des magasins, pour des trucs, etc. Oui, je pense que ça va être. On va avoir quasiment que de l'IA au bout d'un moment.
Et je vais revenir sur la programmation de la Zinzinerie. Elle semble s'articuler autour du salon de la micro-édition avec une trentaine d'exposants venus de toute la France. Qui sont-ils et que présentent-ils ?
Bah, y en a beaucoup. vas-y, Léo.
Alors, je pourrais pas les décrire tous, mais je dirais qu'il y a une partie des gens qui présente de la bande dessinée et il y a un peu par exemple j'ai pas de noms qui me viennent et tout. Mais ouais il va y avoir comme tu disais tout à l'heure de la bande dessinée et, de la littérature et des choses plus graphiques, des choses plus expérimentales aussi, du dessin. Et
après, il y a des gens aussi qu'on a invités, comme c'était un appel à candidature, il y a des gens, on a vu leur projet que sur les portfolios en PDF, donc on va aussi découvrir en vrai au moment du salon. Donc il va falloir venir à Zinzinerie pour découvrir les exposants.
Ouais, nous-mêmes, on va découvrir certains trucs. Et en plus de ça, même les gens qu'on connaît ou qu'on sait déjà qu'est-ce que c'est leur travail, souvent l'effet festival fait que ça leur donne envie de sortir un dernier truc ou préparer une nouvelle bande dessinée ou une nouvelle histoire ou monter une revue pour l'occasion. Et voilà, donc il va y avoir pas mal de choses nouvelles aussi, je pense, comme souvent à des festivals comme ça.
Notre interview va déjà toucher à sa fin. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le programme ce week-end?
Alors, au programme, on a des ateliers, des conférences, en plus du salon. Ce sera surtout l'après-midi, les conférences et ateliers. Et il y a tout le détail normalement sur Instagram. J'ai pas la timetable en tête, mais...
Et sinon, le soir du samedi, il y a une soirée au Bloom Pop, qui est un bar qui est pas très très loin du lieu du festival. Et donc là, ce sera un peu histoire de fêter ça avec tous les gens qui sont venus et tout. Et il y aura des DJ sets et des concerts.
Et demain soir, exposition, vernissage de l'exposition de Thibaut Arnoux à l'Hôtel Pasteur aussi, à 18h.
Ouais, à 18h. Et du coup, c'est une expo qui est organisée aussi par le Festival Zinzinerie et qui est du coup à un autre endroit. Et là, c'est des dessins. Enfin, c'est Thibaut Arnoux. Il a construit des machines à dessiner avec des aérosols et des morceaux de traceurs de machines à tracer. Et je pense que ces machines seront en activité. Il y aura aussi les dessins qu'il a réussi à faire à partir de ses propres dessins à voir dans l'expo.
Très bien. Bah, merci beaucoup pour votre présence.
Bah, merci à vous.
Notez bien dans vos agendas la Zinzinerie, c'est ce week-end, les 11 et 12 octobre, de 10h à 18h. Le festival se déroule au BAM, le bâtiment à modeler à Clonay. C'est gratuit et la soirée du samedi soir est à prix libre.
6h avant minuit.
Esquisse Centre LGBTI+ de Rennes tire la sonnette d'alarme. Le conseil d'administration a publié un communiqué de presse hier pour alerter sur une baisse inédite des subventions reçues par la structure. Cesse interroge la présidente de l'association, Emma Guiguin, pour sa chronique LGBTI+.
Je fais partie des gens qui ont co-signé le communiqué de presse qui a été publié il y a tout juste un jour sur votre compte Instagram. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ?
Je fais partie du conseil d'administration de Esquisse et du coup c'est nous qui avons lancé ce communiqué de presse pour alerter en fait sur une situation assez inquiétante qui nous arrive, la suppression de 40 000 euros de subvention pour le centre. Cette subvention, elle fait partie du plan national pour l'égalité et contre la haine anti-LGBTI+, un plan en fait qui a été lancé en 2023 et qui normalement court jusqu'en 2026, piloté par la DILCRA. Donc, qui est la mission interministérielle de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Cette dotation, elle avait été impulsée en 2023 à hauteur de 10 millions d'euros. Il y a une enveloppe déjà prévue depuis 2023 et ça me semble étonnant que du côté de l'Ille-et-Vilaine, cette dotation, elle est filée aussi, qu'il n'y ait déjà presque plus d'argent en 2025 alors qu'elle est censée courir jusqu'en 2026.
C'est une amputation de 40 000 euros que vous subissez sur cette aide au fonctionnement. C'est quoi les conséquences concrètes pour vous ?
C'est la plus grosse dotation qu'on ait, nous, le centre LGBTI+ de Rennes. Dotation, elle était fléchée sur des salaires. Donc, du coup, nous, on a pu embaucher 2 personnes en 2024 grâce à cette dotation de 50 000 euros qu'on avait eue en 2024. Ces 2 personnes-là, bah, cette année, risquent fortement de perdre leur emploi, en fait. C'est déjà une conséquence gravissime pour elles. Et puis, du coup, pour nous, avec 2 emplois en moins, ça impacte fortement notre activité, en fait. Il y a une coordinatrice administrative et puis une coordinatrice de l'accueil du public. Du coup, la coordinatrice administrative, ce qu'elle nous permet de faire, c'est déjà de répondre beaucoup plus rapidement à toutes les sollicitations qu'on reçoit. Ça nous permet, par exemple, de pouvoir nous investir beaucoup plus sur des projets, par exemple en partenariat avec la ville de Rennes, de répondre à des demandes d'intervention en milieu scolaire et de sensibilisation. On y répondait avant, mais on y répondait quand même déjà beaucoup moins rapidement. Et puis, du coup, on ne pouvait pas répondre à autant de sollicitations. Pour la coordinatrice de l'accueil du public, nous, on a beaucoup de sollicitations de personnes qui sont dans des situations de précarité, qui ont toutes sortes de problématiques liées au fait qu'elles sont des personnes LGBTI+, et que du coup, les personnes LGBTI+, sont encore pas mal discriminées dans nos sociétés. Ces personnes-là, elles nous écrivent beaucoup par mail, par exemple, où elles essayent de nous joindre au téléphone souvent. On peut répondre à toutes ces personnes parce que, en fait, elle est là et qu'elle est sur place. C'est quand même un travail très très important qu'elle fait à ce niveau-là.
Quelles sont vos attentes vis-à-vis des gens qui écoutent actuellement cette interview ?
Ce que les gens peuvent faire, c'est déjà de réagir parce qu'en fait, il y a malheureusement, c'est quelque chose qui tend à se généraliser, que la lutte contre les discriminations, elle passe au second plan. C'est quelque chose sur lequel il faut s'interroger. Donc, pourquoi est-ce que ces missions-là qui passent à la trappe quand il y a des restrictions budgétaires. On a aussi lancé une campagne de dons, donc s'il y a des gens qui ont les moyens de faire des dons, forcément on les accepte, il n'y a pas de souci. On a aussi besoin de bénévoles, même avec des salariés on aurait besoin de bénévoles. En fait, en tant que communauté discriminée, je parle des personnes LGBTI+, il faut qu'on prenne nos droits en main. C'est pas les autres qui vont le faire à notre place. Personne n'est mieux renseigné que nous sur le sujet et personne n'est plus concerné que nous sur le sujet. Si nous on défend pas nos droits, faut pas se reposer sur les acquis. On sait que ces acquis sont pas forcément inscrits dans la pierre. Donc bougez-vous pour défendre vos droits.
Merci Emma Guillain pour ces mots. On peut espérer qu'il sera rallumé le feu de la mobilisation chez celles et ceux minés par la résignation ambiante. Et pour continuer de souffler sur les braises, une petite citation de l'auteur Romain Rolland. Même sans espoir, la lutte est encore un espoir. Et nous, on va écouter notre répondeur.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô ? Allô ?
La radio sauvage.
Bonsoir Cham. Dans l'émission du 7 octobre, vous receviez le relais handicap et des étudiants concernés pour discuter du coup des aménagements des formations de l'université. Et j'étais très frappée de la formule à la carte quand il s'agissait de qualifier la façon dont les enseignants traitaient les demandes d'aménagement des cours. Alors, ça fait un moment que je suis plus à la fac, mais j'ai suivi une formation entièrement à distance en licence. Et il me semble que pendant l'épidémie en confinement, c'était pas à la carte de mettre en place les supports de cours en distanciel, que ce soit les formats écrits, les formats de type capture vidéo ou audio. Et du coup, moi, je m'interroge, qu'est-ce que fait ou qu'est-ce que pourrait faire la fac pour favoriser ces pratiques qui sont là-dedans dans un certain contexte, mais facultatives dans le cas du handicap et des aménagements? Vraiment, je pense que c'est une question à adresser aux membres de l'université. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de la reposer, mais je veux bien votre avis. Bonsoir.
Merci, chère auditrice. Eh bien, on va passer le message au relais handicap et voir si peut-être il peut répondre par répondeur interposé. Ce serait super. Faites comme notre auditrice. Laissez-nous un message vocal. Je vous redonne le numéro. C'est le 02 30 96 25 35. Dites-nous ce que vous avez sur le cœur. Retour sur nos interviews, comme ça vient d'être fait, sur nos reportages ou alors des idées de sujets peut-être à nous soumettre. N'hésitez pas, 02 30 96 25 35. Merci Maud pour la technique et à demain dans 6 heures avant minuit.
Si, la radio sauvage.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe,
la radio sauvage.